Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Lors de l'émission précédente, nous étions arrivés à la fin du 19e siècle et je vous expliquais comment certains mouvements faisaient la transition entre le 19e et le 20e. Attendez-vous, en entrant dans le 20e siècle, à une apothéose en art, notamment plastique, avec multiples courants qui marqueront l'époque. Il faut savoir en général en ce qui concerne la peinture qui est encore figurative, et j'ai donné la définition de la peinture figurative qui est de reconnaître sur la toile ce qui est peint, à savoir un paysage, un objet ou un personnage. Donc en ce qui concerne la peinture dite figurative, nous allons sortir peu à peu, à partir de la fin du 19e siècle, des représentations exactes de la réalité. Et ce, grâce en partie à l'avènement de la photographie qui reproduit la réalité ambiante. À partir de ces moments, les peintres sauront faire preuve d'innovation pour donner corps à leurs ressentis et à leurs idées. Et la couleur prendra le pas sur la forme, et celle-ci sera stylisée ou déformée selon le courant. Voilà pour la petite parenthèse concernant la technique picturale qui se transformera petit à petit au cours du XXe siècle en subissant les divers influx sociaux et la revendication à la liberté d'expression d'artistes de plus en plus indépendants. En début de siècle va apparaître entre autres le fauvisme, nommé ainsi parce que les couleurs sont très vives. En effet, les peintres privilégient l'emploi de couleurs pures, la couleur prime de toute façon sur le dessin, et de plus, les sujets n'ont que peu d'importance. Nous rencontrons parmi les représentants de ce courant Vlaminck, Matisse, Gauguin, Dufy, pour ne citer que. Et ces artistes font partie de ce courant dit avant-gardiste ou d'artistes modernes qui vont prendre corps en ces débuts du XXe siècle. Vous avez un courant très important que l'on nomme expressionnisme. Là, il s'agit davantage d'un état d'esprit né du malaise et de l'insatisfaction des peintres du tout début du XXe siècle et qui semble correspondre à leur intuition sur l'avenir. En effet, la guerre 14-18 n'est pas loin. Il est important de noter à ce sujet que ce mouvement a pris naissance en Allemagne. Il est vrai que là, les peintres manifestent leurs angoisses, leurs sentiments de révolte et leurs idées au travers de leur art. Mais les tout premiers effets de ce courant sont repérés déjà fin 19e siècle avec la peinture de Van Gogh et notamment avec une œuvre que j'avais abordée lors de mes études et qui m'avait marquée parce qu'elle représente bien le mal-être, les angoisses et les peurs d'une partie de cette génération. Il s'agit du tableau nommé « Le cri » du Norvégien Edvard Munch, qui fit d'ailleurs plusieurs versions de cette toile avec des modifications de couleurs. Et c'est une peinture devant laquelle je n'ai pas pu rester indifférente, tant elle dégage de sensations désagréables. Je signale qu'Edvard Munch a également vécu des moments personnels difficiles, voire dramatiques. Si vous le voulez bien, nous allons essayer de rentrer dans le tableau. Et là, je me lance dans quelque chose d'un peu ardu parce qu'il va falloir que je vous l'explique avec les mots sans que vous l'ayez sous les yeux. Mais je vais essayer. Alors, le cri. Ce que vous voyez en premier plan, en bas du tableau, c'est un personnage famélique, spectral, vêtu de noir. Son visage est impersonnel, très pâle, la bouche est ouverte, les mains sont plaquées sur les oreilles. Il semble se tenir sur une jetée bordée d'une rampe composée de barreaux. En arrière-plan, sur la jetée, nous distinguons deux petites silhouettes anodines sur le bord gauche. L'ensemble est dominé par un paysage et des cieux sinueux et tourmentés. Ce personnage fragile, légèrement ondulant, est situé en bas, au bout de la jetée rectiligne, et le paysage sinueux et les cieux mouvants le surplombent et l'entourent. Sa position en contre-plongée, le contraste des formes verticales et des courbes, plus l'emploi de couleurs violentes crues avec des marrons noirs verticaux, des bleus froids sinueux, rattachés à de larges bandes horizontales épaisses d'un rouge vif, rapidement exécutées pour constituer ces cieux, donnent à l'ensemble une impression d'enfermement, voire de folie. Nous voyons ici comment la composition, les formes contrastées de courbes et de verticales, les couleurs violentes, l'attitude et l'apparence spectrale du personnage central sont capables de créer une ambiance délétère. Et cela, grâce à la manière dont le peintre compose, choisit formes et couleurs et exécute son travail. Et ce qui ressort et qui est étonnant, c'est que ce personnage au premier plan semble en proie à une agression extérieure puisqu'il met ses mains sur ses oreilles et pourtant en même temps, vu l'aspect de son faciès, il émet un cri. Il est là à la fois émetteur et récepteur comme s'il était bourreau et victime. On ressent bien que son cri n'est pas libérateur et qu'il se fait l'expression d'un conflit qui submerge et dont l'origine ou les origines sont troubles et confuses. Le fait que le personnage ne ressemble à personne ou à tout le monde fait que tout un chacun peut y mettre ses propres angoisses. Et c'est ce qui fait, à mon avis, de ce tableau une œuvre universelle. Ce qui me fait rebondir sur l'aspect psychanalytique de certaines œuvres d'art rendues notamment par le mouvement expressionniste. Souvenez-vous que l'art est un moyen, comme le dit Paul Klee, de rendre visible ce qui ne l'est pas. Et en ce qui concerne l'époque, début du XXe siècle, n'oublions pas que la guerre est proche et que les artistes sont pris dans tous ces remous qui troublent le climat social. Et comme tout à chacun, eh bien, ils sont à la fois acteurs et spectateurs de leur société. Sauf qu'à la différence de leurs contemporains, ils s'expriment avec les médiums artistiques. N'oublions pas non plus que c'est fin du XIXe siècle, début du XXe, qu'émerge la psychanalyse et que l'inconscient est mis au goût du jour, notamment par l'intermédiaire de l'Autrichien Freud. Celui-ci fut un moment l'élève du médecin et professeur français Charcot, dont le sujet d'étude était l'hystérie. Et cette pathologie plutôt étrange touchait particulièrement les femmes qui manifestaient leur mal-être de façon spectaculaire. C'est l'intérêt des déviations comportementales a d'ailleurs émergé du milieu médical. Et ce qui s'explique aisément parce que les médecins, dont le travail est de soigner et normalement de guérir, baignent dans un climat particulier et sont rapidement confrontés aux déviations comportementales de leur époque. Les horreurs de la guerre vont affecter légitimement le psychisme des gens et bien évidemment les progrès techniques ayant optimisé aussi les capacités de tuer. Je me permets d'ailleurs de rappeler à ce sujet que la guerre 14-18 a été particulièrement cruelle. Aussi, ceux qui s'en sont sortis physiquement ont néanmoins perdu une part essentielle d'eux-mêmes et sont devenus par la suite sujets d'études de médecins pour l'élaboration de leurs théories. Aussi la question générale se pose, comment traiter les problèmes de toutes ces personnes, hommes, femmes, d'à partir de la fin du XIXe siècle, qui ont du mal à s'arranger avec leurs conflits intérieurs. Ne dirait-on pas, c'est ma théorie, Et je pars d'un constat, c'est que les faits extérieurs, finalement, ne sont que reflets de ce qui se passe dans nos intériorités en tant que personnes, et nous exprimons nos ressentis en les liant à d'autres dans des manifestations collectives. Et que, en sens inverse, eh bien, les faits extérieurs dont nous sommes témoins et peut-être aussi responsables agissent dans le quotidien jusqu'à influencer, voire affecter notre être intime. Et je pose ce postulat, c'est que tout ceci se passe un peu comme avec un système de va-et-vient et d'interdépendance entre monde extérieur et intérieur. Et ce mot d'interdépendance est important, puisqu'il s'impose du fait que nous créons et en même temps nous subissons. Et de cette dynamique dont nous sommes à la fois créateurs responsables et innocents dépendants, on va dire, dépend bonheur ou malheur, harmonie ou déséquilibre personnel et ou collectif, et la porte de sortie lorsque nous sommes en proie à des flux négatifs et que nous nous dirigeons vers des catastrophes humaines, ce serait peut-être de dire stop avant que cela ne dégénère. Et j'ai envie de dire, essayons de revenir à la base, c'est-à-dire sur nous. Travaillons pour endiguer ce flux négatif qui va se répandre dehors pour créer notre enfer, et essayons de le transformer tant que faire se peut en quelque chose de vivant et de constructif. Ce que j'ai envie de dire également, et qui a tendance à me déranger lorsque nous abordons la vie intérieure et cette notion d'inconscient, c'est que lorsque j'écoute les spécialistes s'exprimer sur ce sujet, j'ai l'impression que c'est à partir de la fin du XIXe siècle qu'un progrès notable et novateur a été réalisé en matière de découverte sur l'inconscient. Et pour ma part, j'ai tendance à penser que c'est exagéré. Bien sûr, Freud a laissé son héritage, qui profite à bien des psys, et je ne parle pas de Carl Jung, hein, qui a su optimiser ce rapport à l'inconscient en élevant le débat jusqu'à toucher du doigt la spiritualité. Et à mon avis, il était temps. Mais si vous vous penchez sur le passé et sur l'évolution de la pensée humaine et de la spiritualité, qu'allez-vous rencontrer ? Eh bien, en prenant mon bâton de pèlerin, si je puis dire, j'ai rencontré, moi, des sages, des philosophes, des spiritualistes qui ont eu la bonne idée de s'incarner pour nous tremper le nez dans nos médiocrités internes, essayer d'y voir clair et éventuellement y faire le ménage. Et à mon avis, ce n'est pas un luxe parce que cela nous permet peut-être d'accéder à quelques bribes de connaissances éclairantes sur nos fonctionnements humains, et ainsi nous pouvons agir de manière un peu plus consciente et plus constructive. Vous remarquerez souvent que ces êtres un peu plus évolués qui ont fait un travail sur eux-mêmes adoptent une attitude, un comportement bien plus empathique à l'égard d'autrui, et finissent par prôner des valeurs comme paix et harmonie entre tous les êtres vivants. C'est vrai que pour moi, la guerre, c'est l'échec de l'humanité lorsque humiliation, injustice, associée à soif de pouvoir et de possession, font déborder le vase, hein, si je puis dire. Aussi, je pense qu'il est temps de s'efforcer de se connaître, accepter ce que l'on y trouve de pas toujours très joli, et travailler à se rendre meilleur, même si la tâche est ardue, et elle l'est de plus en plus à notre époque. Mais pour en revenir à la vie de l'inconscient, il est évident que lorsque vous subissez des traumatismes sévères, le problème demande de sérieux moyens et des soins, et une aide extérieure afin de restaurer ce qui a été détruit ou dévié, ou au moins apaiser la douleur. Et cela reste toujours délicat de comprendre pourquoi ces dérives intérieures. J'ai une question que j'ai envie de poser. Le matérialisme à outrance qui sévit à ces époques charnières et de nos jours encore, n'a-t-il pas oublié de faire une place à cette part de soi qui demande à être comprise, épurée et nourrie, et ô combien soignée aussi ? Quoi qu'il en soit, et surtout à partir de cette époque, fin 19e siècle, les médecins font leur constat face aux pathologies qui se déclarent et ils se mobilisent pour s'en occuper. Quant aux artistes, eh ben, c'est aussi leur rôle de montrer et de rendre visibles ces conflits, voire de démontrer les mécanismes et en tout cas de vous mettre en face à vous-même, un peu comme devant un miroir. Car pour la plupart, hypersensibles, ils vivent la même chose que vous et l'expriment à leur manière. Ou bien ils ressentent avec assez d'acuité ce qui se passe dans leur environnement et dans le cœur des gens pour le retranscrire avec leur langage artistique. En tout cas, ils détiennent pour certains cette capacité, si ce sont de bons récepteurs-transmetteurs, à exprimer la part sombre ou lumineuse de l'être et à lancer éventuellement au monde leur cri, qu'il soit de révolte ou de mise en garde. Il faut bien comprendre par rapport à tout cela que notre inconscient, c'est la partie immergée de l'iceberg, celle que l'on ne voit pas, mais qui néanmoins est la part la plus importante de notre être et qui nous agit bien souvent. D'où l'intérêt d'appréhender l'art aussi comme un moyen de révéler l'invisible au travers de ce qui se manifeste, c'est-à-dire au travers de nos sentiments et nos émotions. Aussi, en regardant ou en écoutant certains artistes peintres, littérateurs, poètes, etc., eh bien, c'est vous que vous écoutez aussi. Voilà pour cet épisode psychanalytique lié à l'art, en espérant que j'ai réussi à vous communiquer de bonnes informations. Et également, j'espère avoir réussi à vous transmettre cette analyse du cri de Munch suffisamment correctement pour que vous ayez envie de chercher à voir vous-même. Nous allons faire une petite pause pour vous laisser le temps de digérer ce que je vous ai dit. Et je vous propose d'écouter Erik Satie, qui est un musicien français du début du XXe siècle. Celui-ci s'intégra par la suite notamment au mouvement surréaliste et ses innovations musicales furent également source d'inspiration pour des musiciens comme les minimalistes, etc. Mais nous aborderons tous ces mouvements artistiques ultérieurement et en attendant, je vous propose une œuvre qu'il composa tout à la fin du 19e siècle et qui se nomme Gymnopédie. J'espère que ce petit intermède musical vous a plu. Alors, pour information, toujours, je signale qu'en ce qui concerne les analyses de tableaux, nous avons la chance de pouvoir rencontrer un spécialiste sur Périgueux. Et je pense qu'il continue toujours ses cycles de conférences aux unités du temps libre. Il s'agit d'un prêtre féru d'art, compétent, qui lui fait la relation entre la peinture plutôt classique et le spirituel. C'est une personne qui se nomme Jean-Marc Nicolas. Et retenez ce nom si vous avez envie de parfaire votre compréhension de l'art, notamment en peinture. Pour en revenir aux expressionnistes, vous avez compris que globalement, l'artiste ici exprime son émotion teintée d'angoisse et de peur en déformant ses sujets. Les expressionnistes stylisent aussi. Les couleurs sont souvent vives pour traduire des émotions aussi vives et donc le coup de pinceau est également énergique. Et c'est la constante de ce mouvement. La prochaine émission, nous continuerons avec l'expressionnisme et je vous expliquerai comment ce courant va se répandre dans les sociétés modernes. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois.
C'était La Voix des Arts, une émission de Christine Darboux.